Bonjour à tous. Donc, je vous remercie d'être venus assister à cette conférence. Donc, le groupe La Poste développer les services accessibles aux seniors. Donc, nous sommes plusieurs intervenantes. Donc, je vais jouer le rôle de modératrice. Donc, je suis Christine Barguin. Je suis la directrice de la responsabilité sociale et environnementale du groupe. Je vais vous présenter donc nos différents intervenants qui vont débattre avec vous. Donc, vous avez Olivier Bassalone, qui est à ma droite et qui est le délégué au développement régional du groupe La Poste. Nous avons Stéphanie Olivier, donc, qui est directrice de l'offre et du développement Onella. Donc, je présenterai rapidement La Poste et Onella juste après. Et donc, Marc Vaucel, qui est directeur du pilotage stratégique de la branche numérique du groupe La Poste. Donc, on vous propose en fait un menu qui va permettre de présenter au départ la politique d'innovation ouverte du groupe La Poste et de passer à une expérience qui a lieu à Bordeaux, qui est aujourd'hui au niveau opérationnel, donc entre Onella et La Poste, pour proposer des services aux seniors au travers d'une conciergerie numérique. Donc, je vais rapidement vous présenter le groupe La Poste. Alors, vous pensez tous, c'est un célèbre inconnu. Vous connaissez tous les bureaux de poste et puis les facteurs. Mais en fait, nous avons 5 branches, dont un représentant ici de la branche numérique. Nous avons les services courrier-colis qui abritent les facteurs. Nous avons le réseau qui abrite les bureaux de poste bien connus. Nous avons la banque postale. Et nous avons l'Express International qui nous permet de couvrir 40 pays. Donc, c'est quand même une représentation internationale forte et qui représente à peu près 10% de nos personnels et un peu plus en chiffre d'affaires. Nous avons presque 270 000 collaborateurs dans le groupe. Et une des caractéristiques du groupe par rapport à Onella, c'est une grande dimension, on va le dire ça comme ça. Donc, Onella est un petit nouveau. Si La Poste date de plusieurs siècles, Onella a 2 ans, c'est ça, à peu près ?
Oui, à peu près.
2 ans. C'est une filiale du groupe Colisée, voilà. Qui est le 3e opérateur français, donc 4e opérateur français, je l'ai monté, 4e opérateur français, donc d'EHPAD. Donc, sans attendre, je vais passer la parole à Marc Vaucel. Donc, on a présenté un petit peu La Poste. Donc, on est bien connu pour nos réseaux physiques que sont les bureaux de poste et les facteurs. Mais qu'est-ce que c'est l'innovation ouverte ?
Alors, juste un petit mot sur la branche numérique. Donc, la branche numérique, c'est la petite dernière, en fait, du groupe La Poste. C'est une branche qui a été construite pour accélérer l'innovation numérique du groupe La Poste. Donc, elle a plusieurs objectifs. D'une part, on doit monter des plateformes numériques au sens usuel du terme, et d'autre part, on doit accélérer la mutation du groupe dans le domaine du numérique. Donc, on a un rôle interne et externe. Alors, pourquoi l'innovation ouverte ? D'abord parce que on pense que nous ne sommes pas tout. Nous avons besoin des start-up, nous avons besoin de tout le monde pour pouvoir continuer à nous développer. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que, comme vous le savez, les marchés postaux traditionnels sont en régression et nous avons vocation à nous renouveler. C'est pour ça aujourd'hui que nous sommes sur le salon Silver Economy Expo. Nous pensons que la Silver Economy, avec d'autres verticales de marché, comme la e-santé, sont des axes sur lesquels La Poste peut apporter quelque chose. Alors, sur le slide que vous avez à côté, vous pouvez voir en fait l'ensemble des domaines dans lesquels on peut parler d'innovation ouverte. Alors, ça se veut complet. Il y a une partie de travail en fait en amont des services. Donc, typiquement dans la Silver Economy, aujourd'hui, on est en train de construire, de réfléchir à des solutions avec le CENSIMCO, Centre de Stimulation Cognitive de l'hôpital Broca, sur les solutions de demain. Nous sommes aussi investis dans différents think tanks. Donc, nous travaillons par exemple avec le think tank de la Caisse des dépôts sur la Silver Economy, qui est piloté par Anne de Richecourt. Nous sommes adhérents depuis cette année à Silver Valley, qui est vraiment le cluster francilien qui adresse l'intégralité, je dirais, des acteurs de la Silver Economy. Et bien sûr, nous avons également un gros programme avec des start-up. Alors, les start-up, ce sont les relais d'activité du groupe Demain. Et pour ça, nous avons construit 3 programmes. Alors, un premier programme qui s'appelle le Digital Lab. Donc, ce Digital Lab, il a pour vocation de monter des expérimentations. Alors, monter des expérimentations, ça veut dire quoi ? Ça veut dire travailler sur de la veille. Ça veut dire monter, des dossiers et les instruire pour nos directions générales. Donc, ces dossiers sont faits en général avec une, deux start-up, voire des partenaires externes. Donc, typiquement, on a aujourd'hui une expérimentation qui est en cours avec TikEasy, qui a un stand sur le salon, et le groupe Bayer Press. Donc, ça, c'est un exemple d'innovation ouverte avec lequel nous allons monter une offre et diligenter une expérimentation sur la commercialisation d'une nouvelle offre. Autres actions concrètes du Digital Lab, il y a Onela, mais je vais leur laisser présenter les différents programmes et les différents travaux que nous menons ensemble. Et puis nous en projetons d'autres. Donc typiquement, il y avait le Lab Postal sur lequel nous avons fait venir une entreprise avec qui nous partageons un stand qui s'appelle Human Life, qui produit des carnets de santé digitaux, notamment pour les personnes âgées. Et puis une autre qui s'appelle H4D. Donc H4D aujourd'hui produit des cabines de télémédecine et a pour vocation de renouveler la pratique de la télémédecine en France. Donc voilà typiquement ce que l'on peut faire au Digital Lab. Vous avez un deuxième programme qui s'appelle Start in Post. Donc Start in Post, c'est un programme complet d'accompagnement des startups dont on pense que les technologies ou les solutions peuvent être l'avenir du groupe. Donc j'y reviendrai tout à l'heure. Et enfin, on a une activité de private equity qui s'appelle Xange, que vous connaissez peut-être, qui est donc une filiale aujourd'hui de la Banque Postale et avec laquelle nous sommes positionnés dans différents secteurs nouveaux comme l'économie collaborative avec KissKissBankBank ou la ruche qui dit oui. Et peut-être que je vais vous repasser la parole, Christine.
Oui. Donc, une petite nouvelle, c'est qu'on n'a pas seulement un partenariat finalement avec la Silver Valley parisienne, mais il y a la Silver Normandie et on a découvert aujourd'hui qu'on a un partenariat aussi. Donc, il se passe beaucoup de choses sur les territoires et c'est très stimulé. Donc, par rapport à ce que tu nous as dit, est-ce que tu peux... par rapport à ça, nous préciser un petit peu, de façon un petit peu plus concrète, ce que la différence entre Start in Post et Xange, s'il te plaît.
Alors, Start in Post, c'est vraiment un accélérateur industriel. Donc, typiquement, vous avez trois étages que vous pouvez apercevoir, donc avec vraiment une partie qui correspond à le montage d'une expérimentation. Donc ce montage d'expérimentation, c'est sur un territoire, c'est à la demande d'une des branches du groupe qui porte l'expérimentation et sur lequel Start in Post peut apporter un financement. Donc en général, ce sont plutôt des petits tickets de 10 à 20K et ces petits tickets permettent de tester un service sur un territoire limité. Donc ça, c'est le premier étage de la fusée. Le deuxième étage de la fusée, ça correspond à, une collaboration beaucoup plus poussée et donc à des partenariats business beaucoup plus avancés sur lesquels on peut rentrer au capital de façon minoritaire dans la start-up pour l'aider à se développer sur ces marchés. Et puis enfin, il y a un troisième étage qui est un partenariat business beaucoup plus structuré sur lequel on peut prendre des participations beaucoup plus importantes et qui est la préfiguration de l'intégration des services de cette start-up dans un environnement postal plus large. Ça ne veut pas dire qu'on va racheter cette start-up. C'est simplement que l'on pense que ces services vont s'intégrer dans notre écosystème et vont permettre d'accélérer le positionnement de nos offres sur les marchés.
Je te remercie, Marc. On va peut-être passer à la concrétisation sur Onela et puis on te repassera la parole après. Donc, par rapport à ce partenariat, donc il a lieu à Bordeaux, puisque c'est sur Bordeaux Métropole qu'il est né. Il a presque 3 ans.
Alors oui, Onella, pour revenir un petit peu sur la genèse, est une filiale du groupe Colisée Patrimoine qui exploite une cinquantaine de maisons médicalisées sous la marque Jardin de Cybelle. C'est important de le préciser parce que finalement, cette expertise de la vieillesse, de l'aide à l'autonomie, elle nous vient du groupe Colisée, donc on a cette expertise métier. Alors Onella, c'est quoi? Tout d'abord, c'est un bouquet de services dédié au confort et aux seniors. Mais aux seniors avec l'ensemble du parcours du senior, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a un senior en particulier. Il y a des personnes avec des parcours de vie qui ont un certain âge et à qui il va falloir adresser une solution bien particulière. Donc, Onella a mis en place un bouquet de services global et après, en fonction de ses besoins ou de ses affinités, on distribue sous forme d'abonnement et on va prendre des abonnements qui correspondent à ce dont on a besoin. Donc pour revenir sur le bouquet de services, finalement, Onella, c'est quoi? C'est un portail internet avec une information qui va être ciblée et géolocalisée. En fonction de là où j'habite, je vais avoir des informations qui me concernent parce que je n'ai pas besoin d'avoir les mêmes infos à Lyon qu'à Paris qu'à Bordeaux. Première chose. Deuxième chose, la connectivité entre membres. Alors, donc les membres peuvent échanger entre eux, créer des forums sur lesquels ils vont pouvoir se rencontrer, et au niveau numérique, et au niveau présentiel. C'est-à-dire que je peux tout à fait dire, j'organise un événement à tel endroit, et on se rejoint tous ensemble à telle heure. Cette connectivité, elle est importante, c'est presque un réseau social de proximité finalement, et sur lequel on va travailler beaucoup en B2B. Par la suite, parce qu'il y a l'aspect B2C donné là, et puis tout le développement B2B qu'on met en place avec des partenaires comme La Poste notamment. Troisième point, l'écoute 7 sur 7 et le service via une plateforme téléphonique qui est ouverte donc 7 jours sur 7, comme je le disais, à des horaires relativement élargis et qui permettent d'apporter un service d'écoute, d'information et de renseignement auprès du public. Donc ça peut être de l'information organisationnelle, de l'information pratique, un horaire de bus, un formulaire à remplir, où est-ce qu'il faut le télécharger, où est-ce que je peux le trouver. Et les concierges sont formés pour répondre à ce type de questions. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Un système d'information relativement complexe où on a référencé des prestataires qui vont pouvoir amener des solutions à ce que souhaitent les personnes. Alors ça peut être tout simplement un plombier, un électricien, mais on est aussi sur tout ce qui est service à la personne, un peu plus ciblé sur les seniors, puisqu'on sait ce que c'est qu'un ergothérapeute, par exemple, tout le monde ne le sait pas. On a un certain nombre de besoins à partir d'un certain âge et la conciergerie va pouvoir répondre à ces demandes avec un système d'information qui est national, parce qu'effectivement, autant le partenariat a commencé localement, autant on est sur une envergure nationale aujourd'hui. Pour continuer, donc une consommation privilégiée avec des réductions chez certaines enseignes qui sont nationales qu'on va pouvoir proposer aux membres de Néa. Une protection à la fois médicale et juridique, donc on travaille en partenariat avec une entreprise par exemple qui s'appelle France Médecin et qui vise à proposer le conseil d'un médecin généraliste par téléphone, d'avoir son avis sur certaines choses, cela ne remplaçant pas une consultation médicale physique à un moment donné si on en a besoin, mais ça peut être un dimanche, je m'interroge sur une posologie de médicaments ou j'ai un problème ou des choses que j'ai pas forcément envie de confier à mon médecin traditionnel parce que c'est peut-être plus intime ou j'ai envie d'avoir un deuxième avis, je peux avoir un médecin par téléphone 7 jours sur 7 qui va me répondre, qui va répondre à ma demande de façon particulière. Idem pour les problématiques juridiques, donc problématiques de voisinage ou droit de la famille. Et puis, septième point important, et ce pourquoi peut-être La Poste aussi au départ nous semblait une évidence, c'est la visite à domicile. Cette visite à domicile, elle est importante notamment quand on est aidant, puisque si on revient sur le public donné là, on a beaucoup de gens qui sont le binôme en fait aidant-aidé aujourd'hui dans la relation. Donc le senior, souvent quand on est senior à la retraite, on doit s'occuper d'un parent plus âgé. Ça concerne énormément de gens. Et donc en l'occurrence, l'idée c'est de pouvoir offrir à la fois un panel de services à l'aidant, mais aussi à l'aidé. Et l'aidant, il a besoin d'être rassuré. Il a besoin de savoir que la personne à domicile, elle va bien, qu'elle va pouvoir ouvrir la porte, qu'elle est là. Et le facteur, c'est le professionnel de proximité, c'est celui qui est sur le terrain, c'est celui qui passe partout et c'est celui qui va nous permettre justement de rassurer les aidants et nous assurer que la personne va bien. Ainsi que des appels de stimulation, bon, je passe un petit peu sur l'ensemble des détails parce que c'est assez vaste, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Merci. Et par rapport, Olivier, par rapport à la Poste, comment vous êtes arrivé sur Bordeaux à rentrer en contact avec Onella? Qu'est-ce qui poussait? Quelle était la demande qui fait que Onella répondait?
D'abord, le sens, c'est que, on vous l'a expliqué, on est beaucoup sur la Poste et on a beaucoup de facteurs et tous les jours, les facteurs vont au domicile des Français. On y tient beaucoup, c'est notre mission de service public, 6 jours sur 7. Et qu'est-ce qu'on constate? On se constate que tous les chiffres qu'on vous donne tous les jours, à savoir qu'on a une population qui est vieillissante, qui a de plus en plus de personnes âgées. Et notre mission, c'est aussi de les détecter et de rendre compte. Voilà ce qu'on souhaite faire. Alors comment? Qu'est-ce qu'on constate? On constate effectivement qu'une population avec, en 2030, où il y aura 20 millions de Français, un tiers de la population française qui va être vieillissante. Comment la Poste s'adapte par rapport à cette nouvelle population en France? Et puis aussi des personnes âgées qui ont un certain nombre, un pouvoir d'achat. On se rend compte qu'aux États-Unis, le pouvoir d'achat des personnes âgées est très important. Et puis, on se rend compte aussi qu'il y a une volonté des pouvoirs publics de mettre cette population, de laisser cette population à leur domicile plutôt que les mettre dans les maisons de retraite. Donc tout très vite, on a essayé de chercher des solutions et des services qu'on pouvait apporter à la population. Donc on a développé 3 types de services, tout simplement parce qu'il y a aussi un modèle économique de la Poste qui était basé sur le courrier au départ. Donc on transportait en 2008 18 milliards de plis, en 2018 on va en transporter que 9 milliards de plis. Donc il faut, à un moment donné, donner de l'activité à nos facteurs et répondre à l'attente des nouveaux usages, des nouveaux besoins de la population. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, ben, finalement, le facteur qui circule comme ça, qui fait 68 fois le tour de la Terre par jour et qui circule en tout point du territoire, peut-être qu'on pourrait le nourrir de nouveaux services. Par exemple, le transport de médicaments. On pourrait aussi, par exemple, transporter des livres de bibliothèque. Donc c'est un service qui s'appelle Porteo, ou quand on passe des conventions avec les médiathèques et on transporte des livres de médiathèques. Et puis, comme ça, on pouvait aussi développer d'autres services. On a développé d'autres nouveaux services, comme ce qu'on appelle Facileo. C'est un service où on détecte le besoin d'une personne et on le remonte à un tiers, l'information. Et cette information, ensuite, elle est traitée par le client qui nous demande de l'information sur cette personne. Il faut comprendre que le facteur, c'est un service c'est une personne qui est très aimée par les Français. C'est le deuxième personnage le plus aimé des Français, après le boulanger. Des fois, c'est le premier, c'est le facteur. Des fois, c'est le boulanger. Et donc, on voulait vraiment travailler sur cette confiance, puisque le facteur, on le fait rentrer au domicile. Et le facteur, généralement, on le connaît. Donc, très naturellement, il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Par exemple, le domaine de la santé, ce n'est pas notre domaine. Donc, on a souhaité s'associer avec Onella, qui est donc le quatrième groupe français d'EHPAD, essayer de développer un service commun où nous pourrions développer nos savoir-faire de connaissance du client, de remontée d'informations, et Onella pouvait apporter un certain nombre de services à la personne. Voilà.
Par rapport au contexte local de Bordeaux, ça s'inscrit dans une démarche plus globale, il me semble.
En fait, il y a deux choses sur Bordeaux. Premièrement, on avait la chance d'avoir une ministre qui s'appelait Michèle Delaunay, qui a lancé la Silver Economy, qui est élu de Bordeaux. Donc on l'a rencontré très vite en lui disant « Mais tu as quand même un vrai besoin, vous avez un vrai besoin d'identifier les personnes qui ont des vrais besoins, et nous, on a notre réseau qui peut permettre de détecter ce besoin des personnes âgées. » Et puis, la deuxième chose, c'est que sur Bordeaux, on avait ce groupe qui était présent, et puis on avait ce qu'on appelle le TIC Santé, un cluster sur la santé, avec lequel on s'est très, très fortement investi.
Par rapport à ce contexte, comment en fait vous avez progressé ensemble? C'est une question qui s'adresse à vous deux, c'est-à-dire de un petit peu l'histoire de la première rencontre jusqu'à vos futurs développements que vous pensez aujourd'hui. Donc je vous laisse un couple de vous expliquer comment vous avez pu fonctionner ensemble, un petit et un très gros.
C'est une très jolie histoire, en l'occurrence. Enfin, je trouve aujourd'hui, et on peut toujours regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais nous, on s'est senti relativement porté par les équipes locales du groupe La Poste, qui effectivement, après, ont su faire jouer la complémentarité, parce que La Poste, c'est un groupe énorme, c'est une grosse machine, et d'arriver à rencontrer les bonnes personnes, c'est pas forcément évident. C'est le rôle qu'a joué Olivier et Agnès Granger au niveau local. Et c'est ce qui permet aujourd'hui de pouvoir répondre à un besoin global qui est celui de la silver economy. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce besoin, il est vaste. Il faut rentrer peut-être... Il ne faut pas oublier non plus que le senior n'a pas envie d'être stigmatisé. Je change un peu de sujet, mais d'où l'idée d'avoir des services qui, à un moment donné, sont proposés à des seniors, des jeunes seniors, et sur lesquels on va pouvoir apporter du service supplémentaire. Et grâce au groupe La Poste et à l'ensemble des entités du groupe, on a pu jouer cette transversalité et cette complémentarité qui nous permet aujourd'hui de parvenir à ce que l'on souhaite et à savoir apporter un réel service supplémentaire. Et puis, vendre du service tout seul en France, c'est très compliqué aussi. Hier, pendant la conférence inaugurale, on disait qu'en plus, la Silver Eco pouvait souffrir d'une certaine inertie. Enfin, il ne fallait pas sous-estimer le temps nécessaire au développement de nouveaux services. Donc, il faut avoir les reins solides aujourd'hui pour arriver à s'en sortir dans ce secteur. Et le groupe La Poste, aujourd'hui, peut apporter cette sérénité. Il nous apporte aujourd'hui cette sérénité. Donc, cette complémentarité et puis le fait de rencontrer les bonnes personnes, de massifier, c'est toute la force du groupe.
Je pense que Stéphanie l'a dit, c'est-à-dire qu'on est un groupe multi-activité. Donc on a une branche bancaire, la banque postale, et donc on a mis en relation effectivement la banque postale et Onela. Et donc aujourd'hui, il y a des services qui se sont développés sur ce niveau-là avec la banque postale, où quand on ouvre un compte pour un senior, on propose gratuitement pendant un temps le pass Onela. Donc voilà, on a mis en contact également La Poste Mobile et Onela, où il y a des réflexions qui sont menées entre le téléphone, le Doro, hein, le téléphone qu'on vend, et puis la conciergerie qu'on pourrait mettre dedans. Il y a plein de pistes, il y a plein de réflexions qui sont menées. L'important pour nous, c'est d'apporter le meilleur service aux seniors. Et donc, comme on est ce réseau, on veut s'associer justement à des structures comme ça assez agiles pour pouvoir offrir les services à la population de demain.
Oui, avec cette volonté, et c'est la thématique de la conférence, de co-construire quelque chose ensemble. C'est pas à La Poste, à un moment donné, de dire on va faire comme ça ou comme ça, même s'il y a des pistes, bien sûr, qui sont données. Mais c'est aussi à chacune des entreprises spécialistes dans son métier, dans son secteur d'activité, de rencontrer La Poste et de dire quelle est l'histoire qu'on a à raconter ensemble et quel process on peut mettre en place.
Est-ce qu'on peut aborder un peu le modèle économique, c'est-à-dire comment vous avez évolué tout au long de l'histoire sur le modèle économique ?
Oui, c'est un vaste sujet, mais très important, puisque à un moment donné, on a beau avoir les plus belles idées du monde, il faut quand même réussir à les vendre. Au départ, un modèle économique très B2C, avec un système d'abonnement, avec des tarifs qui correspondent, enfin qui sont évolutifs en fonction des besoins évolutifs des seniors. Le côté tout inclus... que ce soit dans n'importe quel secteur d'activité. D'ailleurs, les gens y reviennent aussi, puisque quand tout est inclus, parfois, ça coûte plus cher. Donc, nous, on a voulu se dire, on fait des abonnements qui sont évolutifs en fonction des besoins de la personne. Et comme je le disais tout à l'heure, vendre du service seul, c'est pas forcément évident, d'où l'idée de l'associer aujourd'hui avec des services et des professionnels qui ont un rôle à jouer aujourd'hui dans le fait d'installer des services. Donc que ce soit on a un partenariat également par exemple avec le groupe Bastide qui vend du matériel paramédical et qui associe la carte Onela Santé à ses produits permettant d'assurer un service supplémentaire à ses clients. Ça nous paraît bête, mais au départ, quand on achetait une voiture, on achetait une voiture et le contrat d'entretien, on n'y pensait pas forcément. Aujourd'hui, c'est acquis. On achète une voiture, il y a le contrat d'entretien qui va avec. On y viendra sur cette notion de service, mais il faut du temps. Donc, on développe des modèles aujourd'hui avec des entreprises où on inclut des abonnements Onela en plus des produits qui sont associés, alors que ce soit effectivement des produits bancaires, pourquoi pas, ou de la téléphonie, où on peut imaginer un ensemble de produits qui ont besoin d'un service en plus.
En quelque sorte, au départ, la gratuité de l'abonnement de base est un produit d'appel, oui. Et ensuite...
Oui, on a besoin, vous avez tout à fait raison aujourd'hui, je pense que pour arriver à vendre du service, il faut instaurer une gratuité au départ, créer une habitude, on est sur de l'innovation d'usage. Donc à un moment donné, si on ne teste pas, on peut pas se rendre compte.
Puis aussi, on travaille avec les collectivités. Ce qui est important, c'est de détecter les bonnes personnes. Et comme La Poste est présente avec ses 17 000 points de contact en France, on travaille avec les élus pour pouvoir détecter avec ces élus les personnes qui sont fragilisées, les seniors qu'ils ont dans leur commune. Et cette détection nous permet de cibler en fait les bonnes personnes. Donc ça, c'est aussi un modèle économique, c'est-à-dire travailler avec la collectivité, pas uniquement hors sol, je dirais, entre la Poste, même si elle connaît tous les Français, et puis Onela, mais travailler aussi avec les collectivités qui connaissent les citoyens. Et donc ce travail tripartite a permis à Onela de créer Onela Cité.
Voilà, une offre spécifique qui est dédiée aux communes et qui va mettre en place une notion de cité servicielle. Aujourd'hui, je vais créer du lien social entre les habitants, que ce soit au niveau numérique ou humain, en associant également les associations, puisqu'en France, il ne faut pas oublier le tissu associatif qui joue un rôle primordial dans l'animation des communes et la prise en charge de la personne. Donc il faut savoir inclure les mairies, les CLIC, les CCAS, les associations dans un réseau commun, hein, parce qu'il faut travailler ensemble, permettant d'assurer du lien social entre les différents habitants. Et puis, pour les communes, c'est aussi une façon, via le système d'information, de récupérer de l'information sur les habitants, de mieux connaître les besoins, les enjeux des habitants, et de savoir comment on va pouvoir leur répondre.
Par rapport à la coordination interne, Olivier, effectivement, il y a 5 branches, il faut mettre tout le monde d'accord avec un réseau externe qui est aussi multiple. Tous les deux, comment ça se passe? Comment aujourd'hui vous êtes arrivés à un certain équilibre sur le sujet?
Mais en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités. Il y a 5 branches d'activité, il y a 250 filiales à la Poste. Donc il faut trouver les bonnes personnes, les bonnes filiales qui répondent aux besoins des gens. En gros, la Poste, elle répond globalement à l'attente de la population. Ce qui est important, c'est pas que la population sache que c'est telle branche ou telle filiale qui répond aux besoins. Ça, c'est un travail interne qu'on doit mener. Donc, on l'a mené en région. Maintenant, le service, il est national. C'est un service national qui se développe. Donc, on a trouvé effectivement les bons interlocuteurs sur des projets innovants et sur l'idée, effectivement, qu'il faut trouver un tiers et qu'on n'est pas capable de tout faire à la Poste. Ce n'est pas notre travail de tout faire, de tout embrasser. Donc, il faut s'associer avec d'autres. Et là, ça a été le résultat. On a cherché à la Poste Mobile, à la Banque Postale, au niveau du courrier, au niveau de... Voilà, on a cherché un peu partout, dans les forces territoriales de la Poste aussi, pour essayer de trouver les bonnes réponses à l'attente du citoyen.
Et on a eu du mal à comprendre au début qui faisait quoi, pour tout vous dire. Et puis, après, on s'adapte, et puis parfois, on a des noms. Qui peuvent devenir finalement des oui, il y a ça aussi, hein, c'est pas forcément facile de faire bouger les choses. Facteur Service Plus est un outil formidable, mais qui doit encore aujourd'hui évoluer, mais c'est à nous de co-construire avec vous justement ces nouveaux services, en lien avec la demande.
Quel conseil concret on pourrait donner à des gens intéressés, des start-up qui seraient intéressés pour se développer avec la Poste par rapport à la logique du territoire?
D'avoir la chance de rencontrer des gens comme on a vu le rencontrer.
Non, je crois que aujourd'hui, je pense que la Poste est dans une autre posture. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On était peut-être dans un marché habituel de vente du courrier, de transport du courrier. Aujourd'hui, c'est en train de décliner. On doit retravailler et on est vraiment dans un esprit de co-construction de projets ensemble. Donc je pense que l'ensemble du groupe est dans cette posture. Marc l'a expliqué tout à l'heure avec Starting Post. C'est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est convaincu que l'innovation ne sera pas uniquement issue d'une seule personne ou d'un seul groupe, mais vraiment d'un ensemble de savoir-faire et qu'il suffit d'agglomérer pour répondre aux besoins.
Alors, par rapport aux futurs produits prévus, hein, il y a des développements d'Onela qui sont prévus. Donc, vous avez parlé de l'offre BIL, hein, notamment par rapport aux collectivités territoriales. En termes de services, par rapport à l'offre de base, est-ce qu'il y a, en dehors du déploiement national, d'autres services dans les tuyaux?
Avec la Poste, en l'occurrence.
Ou sans la Poste.
Non, avec la Poste, il y a beaucoup de choses. Il y a encore des projets qui sont confidentiels et dont je ne peux pas forcément parler. Mais l'idée, c'est vraiment de massifier, de proposer des tarifs accessibles. Il faut rester aussi dans cette logique aujourd'hui parce qu'on n'est pas sur une population qui, de toute façon, aura les moyens de mettre beaucoup d'argent dans des services, donc rester accessible. Et puis, c'est la culture du groupe La Poste. Donc, de toute façon, on est en symbiose là-dessus, encore des choses à faire avec différentes entités et toujours axer le numérique mixé avec le côté humain, important de savoir associer les deux. Le digital permet beaucoup de choses, mais ne fait pas tout sur le marché des services à la personne et de la Silver Eco.
C'est le sens de la Poste. Tu as tout dit. C'est-à-dire que le sens de la Poste, c'est de massifier. On n'est pas dans un travail de niche où seule la conciergerie pourrait bénéficier aux plus riches, si je puis dire, très rapidement. Mais on est dans un esprit de massification. C'est un peu l'ADN postal avec cette idée de service public, c'est-à-dire d'être en tout point du territoire, de répondre au plus grand nombre. Donc on est parti, et c'est un peu le cahier des charges qu'on travaille ensemble et qu'on souhaite faire avec d'autres start-up, c'est-à-dire vraiment de travailler sur le service à l'ensemble de la population.
Il y a des développements internes à la Poste qui vont un peu faciliter les choses. Tu peux un petit peu exposer en quoi ça faciliterait, comme Facteo dans toutes les mains des facteurs, etc.
Oui, alors ça c'est un nom de code un peu pour Facteo. Qu'est-ce que c'est en fait? On va équiper, on équipe aujourd'hui, il y a un déploiement, y compris sur nos régions, sur l'ensemble de la France. Les facteurs, on les équipe d'un smartphone. Et ce smartphone permet justement de pouvoir collecter de la donnée, remplir des questionnaires et d'être très réactif. Donc un facteur qui va se rendre chez une personne et qui a besoin de communiquer, de faire remonter un certain nombre d'informations, on peut poser un certain nombre de questions, un questionnaire, on remplit très simplement ce questionnaire sur son smartphone et ces données partent justement au client où c'est traité. Donc ça, c'est l'équipement numérique de nos facteurs, d'un réseau mobile, hein, physique et mobile, on le transforme en réseau numérique. Et ça, c'est très important parce que ça donne des grandes perspectives justement de développement. Et on le constate dans ce genre de projet qu'on développe. L'équipement Facteo, parce que c'est un nom code comme ça, postal, Facteo permet justement cette collecte de données.
De façon instantanée. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société d'instantané. On a besoin de récupérer de la donnée immédiatement pour pouvoir, nous, par exemple, chez Onella, à un moment donné, l'aider n'est pas chez lui. On a besoin de le savoir tout de suite et pas à 16h, à 17h, alors que le facteur est passé le matin. Et c'est vrai que cet équipement, aujourd'hui, va permettre cette instantanéité que l'on n'a pas sur les facteurs qui ne sont pas équipés.
Et là, on parle de l'aider, mais l'aidant, j'ai un parent à 600 km de là, pouvoir acheter de la visite de facteurs qui, quelquefois, donnent du renseignement sur mes parents qui sont à 600 km, qui sont un peu isolés. C'est très intéressant de pouvoir avoir cette donnée-là. Ça sécurise aussi les dents.
Marc, par rapport à ce qui vient d'être dit sur l'apport du numérique, finalement, dans la proximité, hein, puisqu'on est à la fois dans un lien physique et numérique, est-ce que tu peux un peu nous éclairer sur toutes les possibilités qu'ouvre ce numérique par rapport à la Silver Economy?
Oui, alors la Poste, en fait, c'est historiquement des réseaux physiques. Donc on pense spontanément au réseau de bureaux de poste, mais vous avez également les boîtes aux lettres, qui sont des interfaces physiques, et vous avez également les centres de tri. Ce sont des réseaux humains. Donc les réseaux humains, on parle bien sûr des facteurs, qui est l'emblème le plus visible, mais vous avez aussi les guichetiers. Et puis, depuis peu, ce sont des réseaux numériques. Alors, le numérique, en fait, on transforme l'entreprise de deux manières. D'une part, effectivement, comme le rappelait Olivier, en équipant nos personnels d'équipements numériques. Alors, il y a aujourd'hui des tablettes qui accompagnent les guichetiers dans les agences, mais vous avez également ce fameux portable Facteo qui va accompagner nos facteurs. Donc ça, c'est la première façon, je dirais, de transformer l'entreprise. La deuxième façon de le transformer, c'est de bâtir des plateformes purement numériques au sens, je dirais, d'un Google ou d'un Amazon. Donc typiquement, vous avez une plateforme d'objets et de services qui va être lancé, qui est en cours de lancement avec DocaPost. Vous avez un communiqué de presse qui est sorti il y a quelques jours. Et cette plateforme a pour objectif de connecter les objets du domicile. Donc vous voyez tous les développements qu'il peut y avoir à partir des objets du domicile dans le cadre de la Silver Economy. Et de connecter les services qui ont besoin de ces objets. Et à partir du moment où on peut collecter un certain nombre de données, on peut aussi imaginer un certain nombre de services au profit des personnes. Et donc, les développements dans la silver economy vont s'accélérer dans les prochains mois par le biais de ces deux transformations numériques. Donc ça, c'est très important. Et nous, par contre, on a besoin de rentrer vraiment dans les verticales de services. On a besoin de professionnels comme Onela. On a besoin d'expérimentation comme ce qui vient d'être décrit, concrète, pour pouvoir promouvoir notre rôle finalement d'intégrateur, puisque finalement c'est un petit peu ce rôle que l'on retrouve. Et avec une spécificité par rapport à ceux qu'on appelle les GAFA, Google, Amazon, Apple, c'est que, et ça a été rappelé ce matin par la directrice générale de DocaPost qui porte ces plateformes, nous avons une éthique de la donnée, nous avons un soin par rapport au respect des personnes. Et par rapport au partage de ces données. Donc cet ADN éthique fait partie de nos valeurs, et donc nos partenaires, nous cherchons des partenaires qui soient effectivement en phase avec ces différentes valeurs, donc comme ça peut être le cas pour Onela, puisqu'en fait là vous voyez très concrètement que Onela va avoir accès à un certain nombre de données concernant les personnes aidant, aidées, et que on ne peut pas faire n'importe quoi avec ces personnes. Voilà.
Et concrètement, ça veut dire quoi, par exemple, à la publicité, à la transmission de données sur les sites,
tu peux nous en dire
un petit peu plus concrètement, comment ça se traduit dans la vraie vie?
Alors, dans la vraie vie, ça veut dire effectivement qu'on aura parfois des modèles économiques. On a parlé des modèles économiques, mais où il n'y aura pas nécessairement de publicité. Ça veut dire que quand il y a de la publicité, les gens donnent leur accord. Peut-être qu'ils peuvent donner leur accord par rapport à un certain périmètre. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça veut dire qu'on garantit la confidentialité des données de façon absolue. Et pour vous donner un exemple concret, aujourd'hui, on est le premier hébergeur de données de santé en France. Alors ça, se sait pas beaucoup, mais nous hébergeons notamment le dossier pharmaceutique. Et le dossier pharmaceutique, c'est aujourd'hui 30 millions de dossiers créés et 100 millions de requêtes par mois. Donc nous sommes vraiment un acteur aujourd'hui de la santé et demain de la silver economy. Et toujours avec, cette mixité entre l'éthique d'un côté et la capacité technique à opérer les plateformes de l'autre.
C'est toute la différence avec les Amazon et Google?
Disons que je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, nous, notre approche, elle est vraiment, centré sur l'usager, centré sur la personne, et pas, dans une attitude, un petit peu envahissante, voilà, pour le dire gentiment.
On parle du numérique, le physique, c'est la même chose. On pourrait aussi faire un réseau de personnes qui démarchent les gens dans leur domicile et qui remontent de la donnée. Le facteur, c'est quand même une personne assermentée. Donc vous voyez, c'est une valeur qui fait qu'à un moment donné, les données qu'on collecte, ce n'est pas de la donnée qu'on va revendre, qui va se balader dans les clouds un peu n'importe où. Voilà. Donc le facteur assermenté, ça a une vraie valeur. C'est une vraie valeur par rapport justement à la confidentialité et aux données qu'on transporte.
C'est également le cas des guichetiers, tous les personnels de la Poste sont assermentés et doivent confidentialité des données, entre autres, et respect des informations et des fonds qui nous sont confiés. Et chaque personne qui rentre à la Poste prête serment de façon très solennelle. Donc oui, c'est un point important.
Absolument. Et pour transférer en fait cette éthique dans le domaine numérique, vous savez qu'aujourd'hui, à partir de données qui ne sont pas des données de santé, en fait, on peut reconstituer des profils et des services qui pourraient s'apparenter à de la santé. Et donc, c'est vraiment ce cloisonnement, ce respect des différentes personnes qui aujourd'hui est inscrit dans nos algorithmes.
Nous avons insisté beaucoup sur cette confidentialité. On voit aussi dans l'expérience qui est menée la diversité en fait des partenaires qui sont fédérés. Donc à ce titre, on peut rappeler qu'on vient de signer avec l'économie sociale et solidaire ce qu'on a appelé l'alliance dynamique, avec 37 réseaux de cette structure suite à la loi Hamon, et avec l'objectif de développer dans de nombreux domaines ses partenariats et ses services de proximité par rapport à un parcours client très important. Donc je pense qu'on peut peut-être rappeler qu'on change un peu de paradigme en partant du client.
Oui, alors effectivement, les écosystèmes dans lesquels nous inscrivons placent systématiquement, alors ça c'est pas propre à la Poste, hein, ça fonctionne comme ça, vous avez toujours au centre de l'écosystème l'usager du service. Et donc cet usager, dans le cas de la Silver Economy, ça va être la personne âgée, ça va être l'aidant, dans le cadre de la santé, ça va être le patient. Et c'est l'interconnexion en fait avec des différents acteurs qui vont graviter autour de ce centre que l'on va t'adresser,
On va vous laisser un peu de temps pour les questions. Donc se lance, qui est le premier, Madame?
Oui. Merci beaucoup. Bonjour. Je suis arrivée un peu en retard, mais je pense que j'ai un peu compris. Je suis Dominique Clément, productrice de télévision. Je suis entre autres... Vous n'entendez pas?
Non.
Si?
Tout près.
Plus près?
Vous mettez
voilà.
Plus proche, pardon. Bon.
Donc, Dominique Clément, productrice de télévision et de numérique aussi. Je produis notamment un programme qui passe sur France 5 qui s'appelle La Minute des Aidants, donc, qui est dans le sujet aujourd'hui. Et je voulais savoir, quand vous parlez des plateformes numériques, quelles sont leurs fonctionnalités, enfin celles qui existent ou que vous allez mettre en place, de Caposte et autres, quelles sont leurs fonctionnalités, à quels besoins vont-elles répondre?
Alors en fait, on a les plateformes que l'on va mettre en place se veulent multisectorielles. Donc typiquement, je vais vous donner des exemples concrets, on va par exemple connecter les objets du domicile pour répondre aux besoins qu'il peut y avoir dans un domicile. Donc on va connecter éventuellement les objets que vous avez chez vous de façon typique de la domotique. Donc ça peut être des volets, ça peut être une alarme, ça peut être une plante connectée. Sur le Lab Postal, nous avons une plante connectée qui, à partir des données mesurées de chlorophylle, est capable de déterminer sur votre smartphone la quantité d'arrosage dont elle a besoin. Typiquement, voilà. Donc ça, ce sont des exemples. Donc tout ce qui concerne, je dirais, le domicile. En ce qui concerne la personne âgée, vous allez connecter les objets de la même manière. Donc ça peut être des détecteurs de présence, de chute. Ça peut être un certain nombre d'objets qui deviennent difficiles à manipuler. Par exemple, je pense à un four micro-ondes, je pense à des appareils électroménagers d'une manière plus large. Ça peut être un certain nombre de devices type télévision. Ça peut être un certain nombre de choses comme ça. Ça va être aussi des services, typiquement. Ça peut être une conciergerie que l'on va faire arriver au domicile de la personne.
Les objets type micro-ondes ou autre, enfin, pourraient être en quelque sorte télécommandés par le numérique, c'est ça que vous...
Ça peut être ça. Ça peut aller jusque-là. Il y a différents stades, mais ça peut aller jusque-là.
D'accord.
Ça peut être par exemple un frigo intelligent qui, connaissant les besoins d'une personne et sachant ce qu'il y a à l'intérieur, va pouvoir, donner un certain nombre de pistes pour pouvoir...
Pour le menu, etc.,
voilà.
Avec des équilibres alimentaires.
Etc. Absolument. Et donc, un aidant, par exemple, qui irait faire les courses, saurait quelles doivent être les priorités qu'il doit gérer.
Et ça existe déjà? C'est dans les projets?
Ça, c'est plutôt dans les projets.
C'est dans les intentions, on va dire.
Je pense qu'aujourd'hui, l'état d'équipement de l'habitat...
Oui, je ne le connais pas, ce frigidaire-là, c'est pour ça.
Voilà, alors en fait, aujourd'hui, quand vous regardez l'habitat pour les personnes âgées, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à faire pour équiper les domiciles, pour les remettre à niveau. D'ailleurs, ça va devenir un véritable enjeu, puisqu'aujourd'hui, on sait très bien que tout le monde ne pourra pas aller en maison de retraite et que ce qu'on appelle l'EHPAD à domicile va devenir vraiment un enjeu national. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans l'habitat. Nous, par exemple, on réfléchit avec nos amis d'ICAD, qui est la filiale immobilière de la Caisse des dépôts, pour l'équipement des domiciles. Donc ça, c'est un premier volet. Et un deuxième volet, après, qui est effectivement des services, je dirais, beaucoup plus opérants, beaucoup plus palpables, tels qu'une conciergerie qui interagirait en permanence avec une télévision, par exemple, pour aider une personne à se prendre en charge. Ça peut être aussi de l'agenda connecté. Donc ça existe, par contre, hein, l'agenda connecté. Voilà.
Bonjour, moi je voudrais témoigner. Je suis Claudie Culac, la compagnie des aidants. On est le premier réseau national d'entraide et d'échange entre aidants. C'est plus de 8 millions de personnes en France, les aidants. qui ont une moyenne d'âge de 54 ans. C'est 100 km qui séparent les dents de son aidé. Et moi, le service Coesio est un service qui me semble indispensable pour les aidants. Parce que quand je dis 100 km en moyenne, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus éloignés, 500, 700 km. Dès lors que le facteur peut passer au domicile et vérifier que le proche va bien, eh bien, ça va diminuer le stress de l'aidant et ça va apporter donc un vrai service. Parce que si vous appelez votre proche en lui disant « Comment tu vas, maman, aujourd'hui ?» Elle va vous dire « Super, ma chérie. » Alors que si le facteur peut lui dire... Enfin, appeler l'aidant en disant « Vous savez, votre maman, ça, ben, depuis 15 jours, elle ne se coiffe plus, elle ne se maquille plus, j'ai l'impression qu'elle ne se nourrit pas bien. » Eh bien, c'est des éléments qui vont permettre à l'aidant d'intervenir avant qu'il soit trop tard. C'est-à-dire que le proche s'inscrive dans une chute, une grande dépendance, etc. Et ce service Coesio, moi, ça fait un moment que je dis à la Poste que ce serait bien qu'il soit vendu en B2B2C. Parce que c'est bien d'avoir ce service en confidentiel, mais nous, plateforme Compagnie des aidants, je vous tends la main. On a vraiment besoin de ce service pour nos aidants, pour nos adhérents.
On se voit à la sortie de la réunion.
Avec plaisir.
Il n'y a pas de problème.
Allez-y, n'hésitez pas. Y compris des témoignages, hein, si vous en avez.
Oui, bonjour. Je voulais rebondir sur les aspects domotiques dont vous parliez. Je voulais savoir qui paye tout ça. C'est-à-dire, je suis une personne d'un certain âge, je suis à domicile avec des problématiques de maintien à domicile. Pour autant, la solution est exceptionnelle. Mais est-ce que j'ai les moyens de me payer tout ça ?
Si je peux me permettre, puisqu'on travaille aussi en lien aujourd'hui avec des promoteurs ou avec des gestionnaires, voire des aménageurs de quartier, dont la vocation aujourd'hui est de travailler sur un habitat évolutif. C'est-à-dire que je rentre dans un appartement à 30 ans, j'ai pas les mêmes besoins qu'à 40, et ensuite une fois que les enfants sont partis, et une fois que je deviens un peu plus âgée et que j'ai besoin d'avoir une barre de soutien dans la douche, voire un banc qui va nécessiter d'avoir un renforcement peut-être du mur pour pouvoir tenir, des chemins lumineux, etc. Donc aujourd'hui, les acteurs de l'habitat réfléchissent à inclure dans leur logement, dans les logements qu'ils construisent, idem pour les bailleurs sociaux, puisque c'est un vrai sujet pour eux, à inclure ces équipements au sein des logements.
Ouais, de manière plus générale, en fait, vous posez la question des modèles économiques. Donc, vous avez vu tout à l'heure, à travers le témoignage qu'ont donné la Poste Aquitaine et Onela, la démarche complète, en fait. Donc, il y a d'abord le choix d'une communauté de valeurs, le développement d'une offre de service, sur lequel on va apporter une infrastructure où on va, je dirais, embarquer un service de la Poste, ce qui est le cas avec Coesio sur Onela. Et ensuite, on va réfléchir au modèle économique, et c'est tout cet ensemble que l'on va porter en fait auprès des directions générales du groupe, de façon à industrialiser, à massifier, comme le disait Olivier tout à l'heure, à massifier les services. Donc, la question du modèle économique, elle est effectivement clé. Parfois, les modèles économiques ne volent pas. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ça ne vole pas tout le temps. Nous, notre travail, c'est d'accompagner les start-up pour que ça puisse fonctionner, c'est d'aller trouver éventuellement des financements. Je vous ai parlé de différents dispositifs tout à l'heure. C'est également d'aller faire la jointure avec les collectivités locales, avec les mairies, avec les conseils généraux, si on pense que les services proposés apportent un vrai service à la population. Et je crois que c'est ce que vous avez fait d'ailleurs.
Alors, il y a aussi les produits assurantiels qui se développent pour prévenir la dépendance. Et en fait, on commence à développer ça, nous, la Banque Postale, mais aussi toutes les mutuelles et les compagnies d'assurance qui sont en train de changer un peu de modèle. Alors évidemment, c'est un peu trop tard pour nous, je me mets dans l'eau, mais par rapport aux jeunes, il y a de nouvelles possibilités de préparer ces éléments-là. Et dès 40 ans, voire même bien avant, de penser à ça. Et puis, en fait, on travaille beaucoup avec les collectivités, parce que notamment avec les conseils généraux, puisqu'on s'est rapproché d'eux, pour proposer un service B2B2C avec pour leur économiser par la prévention, hein, puisque c'est vraiment de ça dont on parlait même à table, eux ont tout intérêt à le faire parce qu'ils vont économiser, parce que la dépendance coûte cher, l'EHPAD coûte cher, et tout ce qui permettra à la personne de ne pas tomber dans la dépendance, et on sait à peu près ce que c'est-à-dire très concrètement pouvoir avoir un certain nombre de services, mais aussi la capacité à avoir du lien social, hein, il y a eu énormément d'études sur le sujet, et aussi l'intérêt d'avoir des partenariats avec des pôles de compétitivité comme celui de Paris ou celui de Normandie, qui réfléchissent aux conditions justement qui permettent d'éviter cette dépendance, puisque l'objectif c'est quand même de vivre vieux en bonne santé, parce que vivre vieux en monnaie de santé, tous ceux qui ont des personnes âgées autour d'eux qui sont dans ce cas-là, elles demandent qu'à mourir, hein. Donc très clairement l'objectif c'est de vivre vieux en bonne santé et mobile, donc tout ce qui prévient est intéressant pour la collectivité, puisqu'on contribue tous à financer finalement la dépendance de ces personnes. D'autres questions ?
J'aurais juste ajouté que le fait de rester à son domicile, ça coûte toujours moins cher que effectivement d'être dans un EHPAD, dans un hôpital, ou de façon générale, et probablement l'aménagement coûte moins cher. Et typiquement au niveau des collectivités locales, je pense que le souci c'est d'accompagner effectivement cette démarche-là. Alors, bien évidemment, tout ça dépendra de la politique qui peut exister au niveau de chaque département par rapport à ça. Je voulais souligner que dans le prolongement de tout ce qui a été expliqué là, il y a une expérimentation en Basse-Normandie, dans la région d'Alençon, d'une maison domotique, justement, qui permet de visualiser de manière extrêmement concrète ce qui peut être réalisé au niveau d'un habitat. Et c'est doublé, en fait, de toute une zone de formation pour les personnes qui sont amenées à travailler dans le cadre des services à la personne. Et donc c'est vrai que je pense que ce qui est intéressant c'est l'articulation des différents acteurs sur un territoire qui chacun à sa place et de manière complémentaire vont contribuer effectivement à cette démarche de la silver economy, sachant que au-delà de la présence de Madame Delaunay sur Bordeaux, je crois que la première région Silver Région, ça avait été effectivement dans la région où j'ai le plaisir d'habiter.
Bonjour, Céline Chric de la Silver Valley. J'aimerais savoir, Madame Barguin, vous avez dit travailler avec des collectivités sur des dispositifs de prévention. Est-ce que vous pouvez détailler quels sont les dispositifs en question?
Disons que vous avez eu déjà un exemple. Entrenez-là la poste avec le contact dans une offre B2B2C. Après, il y a au national un travail entre le courrier et la CNAV de façon à développer justement cette prévention pour le compte de la CNAV et notamment au travers de Cohésio, hein, dans les visites à domicile, pour vous citer deux exemples. Mais enfin, en gros, vous avez bien compris, on est au début et tout est à inventer. Et on compte aussi sur les recherches en cours que ce soit chez vous dans la Silver Valley, que ce soit en Normandie, puis les différentes expérimentations qui se lancent dans les territoires, qui ont énormément de créativité sur le sujet pour avancer vite et bien.
On se rend compte qu'en fait, il faut les réseaux que l'on a doivent apporter un maximum de services. Donc l'important, c'est aussi quelquefois de porter des courses. Donc le porter aux courses, on l'appelle ça comme ça, c'est aussi important pour maintenir la personne à domicile et lui faciliter la vie. Donc c'est vraiment ça qui est important. Dans toute cette question des seniors, il y a toute la prévention, il y a tout cet accompagnement qu'on peut faire grâce à un réseau. Voilà.
Et bonsoir, Frédéric Arnaud. Je porte témoignage parce que je suis une jeune start-up incubée chez Starting Post. Donc nous, on est dans la première étage de la fusée. Voilà, et donc, on a mené une expérimentation avec la Poste à Marseille où on a envoyé une centaine de facteurs à la rencontre de 2500 personnes âgées pour remonter leurs besoins en aide à domicile. Voilà.
Parfait.
Voilà une expérience concrète.
Une autre question, témoignage. Tout est clair. Donc, on vous remercie tous de votre présence et de votre participation et on vous souhaite un très bon week-end puisque je crois que maintenant, on est à peu près à l'heure où c'est décent. Merci,
beaucoup.
Au revoir.
Merci.
Merci à nos intervenants aussi et à monsieur qui nous a passé les transparents.